Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les serpes de la critique, j'ai nommé Olivia de Lamberterie, Duel, Arnaud Vivian de Regard, de Transfuge, mais surtout le rédacteur en chef de la revue Charles avec Jean-Louis Hésine. Du magazine littéraire et avec bon retour au club, Frédéric Becbédé du Figaro Magazine. La dernière fois que tu étais au MAS, c'était à la fin des années 90 et tu représentais Voici. Mm-hmm. Je vois que tu as fait un progrès quand
Merci,
même
oui.
dans ton évolution critique.
C'est aussi l'âge peut-être.
Oui. On parle ce soir, vous l'avez compris, de La Serpe de Philippe Génada, mais aussi d'Alma de Le Clésio, de Millennium, de Lagercrantz, de Trois jours chez ma tante, d'Yves Ravet et de Bakita de Véronique Colmy dans Le Courrier de la Semaine. Cléo Camelli nous donne un conseil. Cher Masque, je suis enseignante au lycée de Ferney-Voltaire. Je viens de refermer un roman magistral qui parle de la guerre d'Algérie. Moi, j'ai cru que c'était le livre d'Ali Zeniter. L'art de perdre, eh bien non, pas du tout. C'était Un loup pour l'homme de Brigitte Giraud chez Flammarion et qui va me permettre, nous dit cette auditrice, enfin de faire comprendre à mes élèves de terminale comment les appelés français, mais aussi les pieds noirs et les Algériens, ont vécu cette période de déchirement. C'est le livre qui nous manquait. Jérôme Germondeau est effaré par les critiques du Masque et surtout de deux de nos confrères, je crois que tu étais dedans Jean-Louis, sur Le jour d'avant de Sorge Chalandon chez Grasset, dont le style est juste du début à la fin. Jean-Louis, il n'y a aucun pathos, les choses sont décrites simplement et jouent effectivement avec nos émotions, mais quand on se pâme pour Eva Ionesco et son mari Simon Liberati, je comprends qu'on ne puisse pas apprécier la beauté de ce livre. Et pour Gabriel Klesevski de Verquin, le roman de Sorge Chalandon n'est pas exempt de poncifs sur le pays noir, l'hommage qu'il rend au dur métier de mineur est poignant, juste et très bien documenté. À propos de Merci Marie-Paty de Lola Lafont, Olive nous dit que l'affaire Patricia Hearst n'est pas le sujet, mais le prétexte du roman, un roman qui est un appel, Olivia, aux femmes, a déserté toutes les assignations en termes politiques. On pourrait dire que c'est un appel à la grève du genre. Dans le contexte d'atonie politique actuelle, ce roman m'a bouleversé. Et j'encourage toutes les auditrices à se le procurer. Mais je pense que les auditeurs peuvent aussi le lire. Oui. Sabine Guillot tient à remercier Olivia pour son conseil de fin d'émission à Nancy. En effet, ma fille, qui était avec moi dans la salle à l'Opéra de Nancy, s'est rendue le lendemain au Livre sur la Place, où elle a pu rencontrer Ariane Monnier et se faire dédicacer le presbytère chez Lattès. Cela a fait deux heureuses. C'est le livre que tu avais ce soir-là conseillé. Et toujours pour Olivia et pour finir, Cécile Magne précise à Olivia que l'expression « plat comme un trottoir de rue » qu'utilisait souvent sa rédactrice en chef de Elle est tirée de Madame Bovary pour parler de la conversation du malheureux Charles, Paul François et même plus précis, la comparaison de Flaubert est au chapitre 7 de la première partie de Madame Bovary, page 328 dans l'édition de la Pléiade, deux points, ouvrez les guillemets, la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. Rendons à Gustave ce qui lui appartient et pas simplement à ta rédactrice en chef.
Oui, mais je peux presque dire que Flaubert était mon rédacteur en chef.
Ça, à mon avis, on te ressortira dans quelques années, ça. Hein. Allez, on commence avec Bakita chez Albin Michel, le 13e roman de Véronique Olmy, qui a reçu, il y a un an, c'était Gaël Faye pour Petit Pays, qui a reçu des mains de Leïla Slimani le prix FNAC. Bakita, qui est en lice pour le Goncourt, je crois même que c'est dans la dernière sélection. Et dans cette biographie romancée, Véronique Olmy raconte le chemin de croix, au sens propre, d'une esclave qui a été canonisée en 2000 par Jean-Paul II. Je crois que Frédéric était à la cérémonie. Née au Darfour, au milieu du 19e siècle, elle a été enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans, vendue, je te raconte Jean-Louis, sur un marché des esclaves au Soudan, rachetée par le consul d'Italie, qui l'a emmenée à Venise, et finalement placée chez les religieuses, où, touchée par la grâce, elle devient une des leurs, Madre Moretta, ce qui veut dire la petite mère noire. Avant de mourir, en 47, elle avait 78 ans, Sainte Joséphine Bakita, qui veut dire chanceuse. En arabe, est-ce qu'elle vous a touché, Jean-Louis ?
Oui, c'est vachement bien, même. C'est une action, c'est une belle action.
Toi, ta copine, c'est plutôt Sainte Thérèse de Lisieux.
Oui. Elle a beaucoup souffert aussi.
Oui.
Non, mais.
Mais elle se promène toujours.
C'est vachement bien fait.
Dans le monde, hein.
C'est un petit peu, je vais pas dire bavard, mais c'est parce que j'ai dans l'esprit un genre littéraire qui s'appelait les brèves vies des saintes. Hein. Les saints, c'est bizarre, mais on simplifie beaucoup. Mais,
bon. Là, le roman, il fait 460 pages.
Oui. Hein. Voilà, mais bon, il y a deux guerres mondiales, hein. Il y a vraiment dans cette vie, il y a beaucoup de choses. Non, c'est impeccable. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment le mot, impeccable. La sainteté est un très beau sujet. Et puis, je pense que quand on est un auteur, on est à l'époque du covoiturage, et quand on est un auteur, c'est toujours avantageux de faire monter à son bord un passager de qualité ou une passagère de qualité. Voir un super-héros ou une super-héroïne, c'est quand même extrêmement avantageux. Donc, c'est très bien. Mais je ne sais pas quoi en dire.
C'est un peu ce que je sens. Hein.
Oui, c'est ça. En t'en regardant, tu vois, ma parole rebondit dans ton regard où je vois qu'il ne revient rien.
Non, parce que... J'arrive pas à savoir.
C'est comme si je n'en disais rien, alors que je suis en train de dire que nous avons là un livre impeccable, exemplaire...
Oui, enfin...
Sans défaut.
Oui. Frédéric.
On sent une ironie quand même.
Frédéric. C'est un livre édifiant pour toi.
Édifiant, oui.
Voilà. C'est ça l'adjectif, oui. C'est édifiant. J'étais, la dernière fois que je suis venu au Masque, donc quand j'étais étudiant, j'avais fait une retraite dans une abbaye, en Normandie d'ailleurs.
C'est vrai ?
Ouais,
C'est vrai,
chez des moines bénédictins à Saint-Vendrille.
Ah oui, oui, ouais. Très bien.
Et alors là, personne ne parle.
Bec Bédé ? Chez les moines ?
Oui, exactement.
Je ne t'y ai pas vu.
J'avais travaillé.
Ils ont dû se marrer, les moines. Il y avait de BD qui arrive. T'as mis des trucs.
Non, mais c'est la vérité. Et alors là-bas, on ne parle pas. Hein, c'est le silence total. Et pendant les repas, il y a un moine. On a le droit d'éternuer. Et pendant les repas, il y a un moine qui lit La vie des saints. Et en lisant Bakita, j'ai eu l'impression d'être de nouveau dans cet endroit. En train d'entendre une vie de martyr, parce que c'est quand même, ça commence par l'esclavage, par des tortures insoutenables, des scarifications, des viols, etc. Cette vie est quand même terrifiante, comme toute la vie, souvent la vie des saints.
Hein. Oui. Mais même la nôtre, elle n'est pas facile non plus.
Hein. C'est pas facile non plus, surtout quand on lit ces chapitres-là, qui sont vraiment insoutenables. Hein. Et donc, en fait, la question.
C'est marrant, vous n'avez pas l'air du tout. Vous êtes là à dire que c'est un bouquin impeccable, édifiant, magnifique, et puis.
Non, moi, j'ai. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on juge le talent de l'auteur ou le sujet du livre ? C'est le problème que j'ai souvent. Évidemment que le sujet du livre.
Le principe au Masque, c'est qu'on juge les livres.
Oui, mais c'est mêlé, parce que tu prends, par exemple, le film 120 battements par minute. Tout le monde trouve que ce film est génial à cause de son sujet. Mais le film, moi, je l'ai trouvé un peu ennuyeux, un peu long. C'est le même problème.
Tu vas pas rentrer en plus au masque cinéma, maintenant.
Moi, je vais revenir partout.
Surtout que là, l'auteur s'efface derrière son sujet.
Oui, contrairement à Génada, quand on va parler plus tard.
Ouais. Oui.
Mais c'est ça, le problème. Moi, je comprends très, très bien ce que dit Jean-Louis.
Quoi, le covoiturage ?
La difficulté de faire un commentaire, parce que le sujet, effectivement, on ne peut rien dire. Mais ce qui est curieux dans ce livre, c'est d'abord parfois un peu le style, on peut un peu le dire. Son cœur faisait du tam-tam, parce que ça se passe en Afrique, c'est pas nécessaire. Surtout que ça revient assez souvent. On se dit, si c'était au pôle Nord, son cœur aurait été gelé, enfin je ne sais pas. Mais moi j'ai eu un petit problème avec le cœur qui bat beaucoup, beaucoup du tam-tam. Mais bon, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucun point de vue de l'auteur sur son sujet. En tous les cas, dans la deuxième partie. La première partie, elle est insoutenable. Ouais. Moi, j'ai trouvé bizarre qu'aucun critique jusqu'à présent ne l'ait remarqué et que les gens lisent ce livre.
Si on aime les descriptions de torture d'enfants, voilà. On aime ce livre.
Voilà.
C'est un public assez restreint.
Quand même assez terrible. Et les gens vous parlent de ce livre de manière assez, comme ça, prime sautière.
Si tu permets une petite parenthèse, ce qui me frappe surtout, c'est que c'est une biographie d'ailleurs emprunté à des livres existants, oui, sur elle, sur Bakita, mais c'est pas du tout un roman. On s'est présenté comme un roman.
Mais parce qu'on ne sait pas, et c'est là où arrive le deuxième problème du livre, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En plus, on apprend à la fin du livre que cette femme a écrit elle-même ses mémoires, donc on aurait envie de lire ce qu'elle a écrit, elle. Mais après, je trouve que se pose une question. C'est comme une espèce de biopic hollywoodien, en fait. Ça ressemble beaucoup à ça. Et on comprend ce qu'elle veut faire dans la première partie, qui est de dénoncer, effectivement, l'esclavage. Et il y a des scènes avec les petits garçons eunuques qui sont choisis. On sait qu'il y en a très, très peu qui vont échapper. Il y a vraiment des trucs qui vous donnent des frissons. Mais la deuxième partie, je ne comprends pas ce que veut faire Véronique Olmy, puisqu'elle n'a jamais de point de vue sur son propre sujet. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
On sent qu'en gros, elle a le point de vue de Jean-Paul II. C'est-à-dire qu'il était temps de la canoniser.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, elle aurait dû nous l'expliquer. Et c'est pour la première fois, j'ai compris, le problème qui est posé en ce moment aux États-Unis par les histoires d'appropriation culturelle. Jusqu'à présent, je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Est-ce que, tout d'un coup, la réalisatrice de Détroit avait le droit de parler, alors que c'est une femme blanche, de problèmes d'hommes noirs? Mais là, c'est un peu la question qui se pose. C'est quel regard, finalement, elle a sur son héroïne? On ne sait pas.
Arnaud?
Bon, moi, je vais vous dire, dans les vies des saints, il y a toujours un côté SM que j'adore. Et là, on peut dire qu'on est servi, effectivement, dans la première partie. L'escarification, quand même, la scène d'escarification.
Le mieux, c'est Saint-Sébastien, dans le genre. Hein.
Oui, le Saint-Sébastien, c'est top. Mais là, on est quand même, hein, l'escarification au fil de fer barbelé.
Avec du sel,
on met du sel, on coupe la peau au rasoir, on met du sel.
Angélique, marquise des anges.
Il y a Jean qui dîne pour l'instant.
Non, il y a un côté.
Non, mais c'est la vérité.
Vous vous souvenez, hein, quand même. Et bon, alors, après, moi, l'histoire d'une esclave noire qui se libère en rentrant dans les ordres et en prenant le voile, ça me fait rire. Je trouve ça marrant dans le contexte actuel. Je trouve ça marrant que tout le monde en fasse un grand livre. Je me suis senti en lisant comme Casanova, en fait. Ça, c'est l'avantage du livre. Vous vous souvenez de l'histoire de Casanova? Il est condamné pour athéisme à 15 mois de prison et les juges lui donnent que 2 livres. Dans sa géole, il a un livre d'un jésuite sur le cœur du Seigneur qui le rebute immédiatement, et puis il a une hagiographie de la Vierge Marie par une franciscaine portugaise et qu'il va lire là plusieurs fois. Enfin, quand même, au bout d'un moment, il tombe malade et ses geôliers s'inquiètent, font venir un médecin. Et il a très très mal, il a des hémorroïdes. Donc le médecin
c'est
dit.
C'est charmant ce soir.
Pour les hémorroïdes, il faut lui faire faire des lavements. Et pour le reste, donnez-lui un livre intéressant à lire.
C'est donc Bakita chez Albin Michel de Véronique Olmy. Je ne serais pas tout à fait étonné que dans quelques jours...
Il est le prix Goncourt. Mais oui,
c'est un des favoris.
C'est le profil
idéal. Ça
ne
sera pas grâce à nous tout à fait.
C'est le profil idéal.
Ça se joue entre Zénithère et Olmy, paraît-il.
Voilà, entre l'Algérie et le Soudan, donc. La Serpe, donc, ce très gros roman, Jean-Louis, 650 pages.
Ah oui.
De Philippe Génada, c'est chez Julliard, il revient sur un épisode totalement oublié, enfin avant la parution du livre, de la vie de Georges Arnaud, l'auteur du fameux Salaire de la peur, porté à l'écran par Clouzot, que d'ailleurs il n'aime pas beaucoup, hein, Clouzot, Génada. Ouais. Bref, en 41, Henri Girard, qui ne s'appelait pas encore Georges Arnaud, et qui préparait à 24 ans le concours d'auditeur au Conseil d'État, fut accusé du triple meurtre à la Serpe, s'il vous plaît, de son père, de sa tante et de leur bonne, dans le château familial d'Escoire en Périgord, dont apparemment toutes les issues étaient fermées. il est arrêté, inculpé, écroué. Il passe 19 mois en prison jusqu'à son procès. C'était en 43, belle époque, où il risque la peine de mort, mais il est défendu par un mec assez bon, hein, qui s'appelle Maurice Garçon, et finalement acquitté. Après quoi, il va s'exiler au Venezuela et il reviendra en 50 avec le manuscrit du Salaire de la peur et avec le pseudonyme de Georges Arnaud. Mon résumé est très rapide, hein, par rapport à ce qu'est le livre. Je rappelle aussi que Génada avait travaillé sur la meurtrière Pauline Dubuisson. C'était la petite femelle dont on avait parlé ici, en bien d'ailleurs. Et là, donc, l'inspecteur Génada, qui lui est convaincu de l'innocence de son héros, enquête sur cette affaire qui n'avait pas été, il faut dire, élucidée. Et il va se promener même avec un nombre incalculable de digressions autour de ce château. Je ne vous dirai pas, et vous non plus j'espère, si Génada trouve ou non le coupable. Arnaud,
Ça fait deux livres, donc La petite femelle et celui-ci, où on voit bien que Janeda a trouvé son truc.
Attends, il y avait Sulac avant. Il y avait Bruno Sulac.
Oui, mais Sulac, c'était un petit peu différent. Mais là, depuis deux livres, on voit qu'il a trouvé exactement son truc, c'est-à-dire des crimes dont on ne connaît pas exactement la solution sur lequel il revient. Et il a trouvé surtout son style, c'est-à-dire la manière de les raconter. Il s'est inventé un personnage, Janeda. Alors, si vous l'avez déjà rencontré, c'est une espèce de gros nounours. Hein. Mais maintenant, depuis deux livres, on commence à bien le connaître. On sait qu'il a épousé l'amour de sa vie, avec lequel il a eu un petit garçon, qui est un personnage maintenant récurrent, qu'on va voir grandir de livre en livre. Parce que là, on sent bien qu'on est rentré avec Janeda dans un trip que moi j'adore, qui est ce qu'on appelle la joie dans la répétition. C'est-à-dire que c'est exactement l'effet que des épisodes de Columbo. Et d'ailleurs, on voit que quand même Janeda a beaucoup pompé à Columbo.
C'est pas Columbo.
Ah si, si, oh, c'est vraiment Columbo. Le côté ma femme me dit toujours... Et là, vous avez quand même ce rapport, effectivement, avec la femme, avec le petit garçon, donc son fils. Lui, il boit son petit whisky, maintenant tout ça est ancré. On sait que la marque, c'est Oban, comme dans les détectives privés qui ont leur marque préférée de whisky. Tout est, et c'est ça le plaisir, vraiment, hein, de retrouver Janeda après La petite femelle que j'avais adorée. Alors, en plus, là, s'y mêle le côté Georges Arnaud. C'est-à-dire que moi, j'avais adoré...
Georges Arnaud, dont on réédite les romans chez Julliard. Il y a un gros volume, il y a tout Georges Arnaud.
Moi, je connaissais pas du tout son amitié avec Jacques Vergès, son action pour le FLN, tout ça m'était totalement... voilà. Donc j'ai appris aussi au passage tous ces éléments avec ce côté donc marrant, de la digression, mais qui est toujours habile. Il y a un côté littérature doudou, et je le dis sans aucun mépris, avec les livres de Janeda, qui fait qu'on se sent bien. On est avec
enfin,
le gars...
Doudou, la scène...
Oui, non, mais après, il faut bien rentrer dans le vif du sujet,
du crime,
c'est-à-dire le crime.
C'est pas
mais
doudou,
c'est encore une fois fait avec une manière un peu retranchée à la Columbo ou alors froide à la Agatha Christie, quoi. C'est un peu les deux modèles.
Bon.
C'est Cluedo,
j'ai
quoi.
J'ai compris, mais l'enquête, proprement dite, elle vous a intéressé les uns et les autres ou pas l'enquête?
Ah ben oui, parce qu'il fait vraiment le job. Alors avec un côté aussi croquignolesque, comme dirait Emmanuel Macron, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on est un peu chez les pieds nickelés. Enfin, il y a un côté, c'est pas l'enquêteur de fer, c'est pas Pierre Bellemare, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup.
Oui. Alors.
Ah bah moi j'adore, moi je trouve que c'est le livre qui aurait dû avoir le Goncourt.
Oui, t'as dit que c'était d'ailleurs le plus grand livre.
Je trouve ça génial, parce que c'est à la fois
elle,
drôle, cruel, tragique, c'est un polar, c'est un livre de procès, c'est absolument passionnant. Et il arrive à mettre des situations ensemble extrêmement disparates qui ne jurent pas. Alors je suis tout à fait d'accord avec le côté doudou, Janeda il est fait pour être inspecteur, comme moi je suis faite pour être majorette.
Non, parce que c'est, il y a un côté...
Très bien, majorette.
Oui,
il y a un côté commissaire Adamsberg, un peu, tu vois, ce
Oui, il a un peu ça, mais dès qu'il sort de Paris, il est paniqué, il est dans une ville de province, il est persuadé qu'on le regarde, parce qu'il ne fait pas comme il faut. Il a une manière de se mettre en scène qui est vraiment hilarante. Il a un autre truc qui est génial, qui est le côté doudou, c'est qu'il bichonne son lecteur tout le temps. Oui. C'est-à-dire que parfois, il est obligé de te faire un tunnel, parce qu'il a été voir. Il te prévient à l'avance,
il
te
dit,
ça va être un peu long, là. Non, parce que pour que tu arrives au dénouement, tu es obligé de passer par tout ça.
Non, mais c'est côté livre du soir, quoi.
C'est même la valeur, la vérité de la digression qui fait... la vérité de son enquête, parce qu'on sait qu'il est dans le vrai, puisqu'il est dans le vrai dans les petites choses, c'est qu'il est dans le vrai
et
aussi dans le reste.
Après, le procédé du livre est génial, parce qu'il te fait le portrait du gars qui est une espèce de fou furieux, désagréable, enfin qui est vraiment un mec pas du tout sympathique.
Ah non, quand même pas, non. Ah non,
il est pas idéal. Dans la première partie,
oui.
Et après,
il vole tout
il
le monde.
Il te retourne comme une crêpe, mais c'est inouï.
Est-ce que vous avez vu les photos de Georges Arnaud?
Oui, bien sûr, j'ai été voir, il a une tête de fou.
Oui, oui,
mais surtout très inquiète.
Le procès est dément, la scène du crime est absolument incroyable. T'es à la fois dans le mystère de la chambre jaune, puisque personne n'est rentré. T'es dans le Cluedo, parce que la bonne a été tuée dans le petit
avec
salon
la
avec la serpe. Et la fin est stupéfiante.
Et après, celle-là, on ne la racontera pas.
Non, on ne la raconte pas. Mais après, c'est perturbant, parce que j'ai déjeuné depuis, alors que moi, j'étais sûre de Janeda, avec un mec qui est un journaliste du Sud-Ouest, et qui me dit, mais attends, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il a raconté. Et donc tu ne sais pas finalement.
Ah, t'as eu une contre-version ?
Ouais, j'ai eu une contre-version.
Ah ouais.
Je
crois
que je vais écrire la suite.
Jean-Louis.
C'est dément.
Ouais, bah c'est tout à fait génial, c'est tout à fait comme vous le dites. C'est même tout à fait, l'inspecteur Columbo, ça démarre, il a le pneu de sa voiture, il a un pneu qui se dégonfle. et dont c'est le souci, c'est son souci principal pendant 45 pages.
T'es obsédé par les voitures ce soir, hein, covoiturage.
Il faut savoir, et il y a un autoportrait d'une dérision exemplaire, magnifique. C'est quelqu'un, en effet, qui ne peut pas quitter Paris, enfin faire 25 kilomètres en dehors de Paris sans avoir une boussole, un sac à dos et une bouteille d'eau pour le cas où, tu vois. Je dirais même, non seulement c'est l'inspecteur Colombo, mais ça irait même jusqu'à l'inspecteur Labavure, tu sais.
Mais c'est marrant parce que vous parlez tous énormément de Génada et très peu de Georges Arnaud.
C'est très troublant.
Hein, alors, je vous jure. Hein.
Moi, il a réveillé des souvenirs, je veux dire. Georges Arnaud, je l'ai croisé.
Dans
les années 70, au Nouvel Littéraire.
T'es si vieux que ça.
Comment? Moi? Oui, moi je suis. Oui, je suis très très vieux.
Mais c'est dingue.
Tu as croisé Georges Arnaud?
Oui.
Et il était comment en vrai?
Il était comment en photo?
Est-ce qu'il a fait le coup alors?
Terrifiant.
Est-ce qu'il avait une serpe?
Il tournait autour des Nouvelles Littéraires. Pourquoi? Parce que son père. Et ça, c'est un souvenir qui a réveillé ce roman chez moi. J'avais complètement oublié ça. Son père, Arnaud, travaillait aux Nouvelles Littéraires. C'était un collaborateur des Nouvelles Littéraires d'avant-guerre.
Le père de Georges Arnaud.
Le père de Georges Arnaud. Et ce que j'ai pu vérifier après. Et donc, il avait un grand amour pour son père. Et il souhaitait réveiller certains souvenirs.
Oui, ce qui joue un rôle dans cette histoire-là.
Oui, tout à fait.
On sent que
son père se fait tuer.
Mais je veux dire que...
Accessoirement.
Forcément, on ne peut pas imaginer qu'il l'a tué. Enfin, je veux dire qu'il avait une vraie passion pour ce père.
Je ne peux pas dire avoir des souvenirs très nets de cette histoire, ou de cette rencontre.
En 43, tu t'en souviens pas?
En 43, procès. Là, mon souvenir est carrément...
Frédéric.
Mais c'est super.
Je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est le grand livre de la rentrée. Je suis extrêmement épaté parce que ça fait longtemps que je connais Génada, puisque Génada travaillait à Voici en même temps que moi.
À Voici?
Pendant très longtemps, oui.
Oui, il en parle d'ailleurs. Il en parle dans ses livres.
Il écrivait les légendes.
Moi, je crois que c'était inventé, ça.
Non, c'est la vérité. Et
je suis vraiment admiratif de son évolution.
D'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas fait une retraite à Saint-Vendry
aussi? C'était pas avec moi. Mais on peut quand même dire, puisque vous avez tous fait l'éloge de ce livre, et je suis d'accord, qu'il y a un petit peu trop de ce qu'on appelle le wiki-roman aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit qu'il va beaucoup sur Google, et chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, il donne toute la fiche Wikipédia. Peut-être qu'on pouvait faire un livre un tout petit peu plus court. Mais cela dit, c'est vrai que c'est une révolution, je trouve, par rapport au livre dont on parlait avant, le Véronique Olmy. Ouais. Là, pour le coup, il s'implique, et c'est ce qui fait l'intérêt du livre. C'est-à-dire qu'au début, il s'en fout de cette histoire. C'est le petit-fils, Manu Girard, qui lui dit « raconte l'histoire de mon grand-père,
son pote,
quand même !»
C'est son pote,
et il s'en fout.
Son pote et le petit-fils
et donc, nous, on voit bien qu'il est happé par cette histoire, alors qu'il n'a pas envie de la raconter. Et du coup, nous, lecteurs, on est happé comme lui. Et c'est ce qui fait, je trouve, vraiment l'originalité du bouquin. J'ai vu que ça et là, on lui reprochait ça, de l'autobiographie, dans ce qui est finalement une enquête policière. Mais en fait, je trouve que c'est ce qui est intéressant, et c'est ce qui fait qu'il est proche de Truman Capote quand il écrit De sang-froid, ou qu'il est proche de, des romans Gonzo.
Ou d'Emmanuel Carrère aussi, quand il fait roman.
Emmanuel Carrère, exactement. Oui, c'est la référence.
La Serpe, donc, c'est le roman chez Julliard de Philippe Génada, et je crois que c'est la première fois depuis la rentrée littéraire qu'on masque
l'unanimité
sur un roman. Même Jean-Louis. Neuf ans après avoir reçu le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Leclésio publie un roman, Alma chez Gallimard, avec lequel il revient à l'île Maurice de ses origines, qu'on appelait autrefois, Jean-Louis, l'île de France. L'île de France. S'il est né à Nice en 40, on sait en effet qu'il descend d'une famille de Bretons émigrés au XVIIIe siècle à l'île Maurice. Jérémy Felsen.
Laissé pousser les cheveux.
Pardon?
Tu sais, c'est les Bretons qui refusaient de se couper les cheveux au moment de la bataille de Valmy.
Mais c'est bien que tu m'aies interrompu pour ça, parce que c'est
ils sont arrivés là-bas
qui, évidemment,
avec
va faire avancer le chemin public. Jérémy Felsen, son personnage, part explorer l'île avec, en guise d'amulette ou de totem, une pierre de gésier de dodo qu'il a héritée de son père. L'exploration n'est pas simplement géographique, elle est aussi historique, puisque Jérémy va plonger dans l'histoire des siens, une histoire qu'il révolte, parce qu'elle est pleine de colons esclavagistes, et une histoire qui le surprend parce qu'il découvre un lointain cousin, Dominique, alias Dodo. Alors Dodo, c'est aussi ce gros oiseau qui ne vole pas, que connaît par cœur Jean-Louis et dont l'espèce a disparu.
Mais
qui est quand même devenu l'emblème de Maurice.
Né
des amours entre un Felsen et une créole réunionnaise, Dodo a grandi à Alma, la maison de famille, et il est devenu une sorte, comment peut-on dire, de clochard céleste, enfin du clochard...
Presque un clown.
Non, je dirais pas un clown. Non. Bref, ce sont les deux narrateurs, Jérémy et Dodo, de ce roman signé par un Le Clézio qui désormais se revendique totalement écrivain franco-mauricien. Il n'est plus un prix Nobel français, c'est un franco-mauricien. Frédéric.
Ben, moi, c'est pas du tout le genre de livre qui s'adresse à moi.
Mais pourquoi il s'adresse pas à toi ?
Ben, parce que j'avais pas tellement aimé, par exemple, Poisson d'or, un de ses livres précédents, qui était très justement édifiant. Hein, on employait ce mot tout à l'heure. Et là, ce qui fait la force de Le Clézio là-dedans, c'est qu'il s'implique, parce qu'on sent bien que Jérémy Felsen, c'est un peu lui, le type qui revient sur cette île et qui culpabilise, parce qu'il est enfant, petit enfant de colons, esclavagiste lui-même, donc il est en train d'essayer de mettre des noms propres sur toutes les victimes, sur tous les gens qui ont souffert là-bas. Il fait son enquête là-bas, et jusqu'à des scènes assez incroyables, où Le Clézio, par exemple, va dans des bars à putes, hein, dans des bars où il y a des filles mineures, et tout ça, enfin, il décrit le tourisme sexuel à l'île Maurice, et tout.
T'imagines Le Clézio, le
prix Nobel,
toujours un très grand et toujours très beau blond,
oui.
Tu vois, arriver là-bas et avoir du mal à porter effectivement le poids de la culpabilité,
oui, c'est ça.
Et alors, de descendre de colons.
Donc, il faut expliquer, le livre, il alterne des chapitres en lettres bas de casse, donc les lettres classiques avec ce personnage Jérémy Felsen, et puis d'autres chapitres en italique où c'est Dodo,
qui n'est pas Dodo la Saumur, hein. C'est pas Dodo la Saumur, c'est Dodo.
C'est pas Dodo la Saumur. et là, pour le coup, ces chapitres-là, moi, j'ai trouvé très intéressant la recherche de langage qu'il fait là-dedans, parce que c'est risqué. Il a le prix Nobel de littérature, il pourrait s'endormir. Il prend un risque de faire un peu comme Faulkner avec ses personnages, hein, dans Le Bruit et la Fureur, de simple d'esprit, où il y a un langage qui est très travaillé. Je suis assez admiratif et je trouve que Le Clézio est en forme. C'est un livre politique,
donc
c'est
en
un
gros,
livre
en
engagé.
Gros, le masque t'a permis de renouer avec l'écrivain Le Clézio.
Oui, un peu. Oui.
Ah,
parce
bien.
Que j'avais un petit peu de mal, et y compris avec les. Qui s'appelait Onitsha aussi, qui était un peu trop naïf, quoi.
Arnaud ?
Oui, alors, en caricaturant, on pourrait dire que Le Clézio nous a fait un gros dodo, quoi. Mais là, c'est plus la littérature doudou, c'est la littérature dodo. Mais c'est quand même la bonne affaire du livre, c'est le dodo.
Tu veux dire l'oiseau ou le personnage ?
L'oiseau.
On apprend, et d'ailleurs, Le Clézio le répète plusieurs fois dans le livre, que les Anglais disent « dead as a dodo ». Donc voilà, ça dit tout. On peut le traduire en français par « Et les civilisations meurent aussi » de Paul Valéry, quoi. C'est exactement l'idée. Et j'ai trouvé qu'il était presque gamin par moment, quoi. Et effectivement, l'affaire avec la prostituée Lolita, puisque quand même le double de Le Clézio passe un moment avec elle, enfin, qui est magnifiquement raconté. Mais
c'est un petit passage, il n'y a que ça qui vous intéresse, en fait, hein, tous les deux. Hein.
Bah, c'est chaud,
Cristal.
Quand même.
Mais c'est surprenant, il se met en danger. Voilà, c'est ça.
Oui, Emeline, 94 ans, vous n'en parlez pas, ça. Hein.
et donc, il y a quelque chose là, quand même, qui se passe, qu'on lit, et où on se dit, mais le type, il a fait une cure de jouvence, quoi. C'est-à-dire, il est franchement là. Il est,
mais je crois que c'est le grand roman sur lequel il travaillait depuis le Nobel.
Ouais.
Hein. Il n'avait pas fait de.
Et on sent cette idée, on parlait de littérature franco-caribéenne lors de la dernière émission, là effectivement il y a des passages écrits en franco-mauricien, en français-mauricien, pourrait dire, il y a une espèce d'exploration là. Alors en même temps le livre coche toutes les cases de l'humanisme contemporain, c'est-à-dire c'est la destruction des forêts, il en parle beaucoup, hein, puisqu'en fait l'île Maurice, il n'y avait que des forêts jusqu'au 19e siècle, maintenant il n'y en a quasiment plus aujourd'hui, c'est la destruction donc écologique, la destruction des espèces, le dodo qui a disparu, et puis la destruction des hommes et des âmes.
Mais le dodo, il a disparu il y a très longtemps.
En fait,
hein, Arnaud,
on passe de l'esclavage à la prostitution, comme ça, en l'espace de finalement 150 ans. Et donc, il y a vraiment une force de dénonciation aussi, avec ce côté, je trouve, là, extrêmement juvénile, oui, enfantin presque.
Olivia ?
Ce qui est rigolo, c'est de voir comment Modiano et Le Clézio sont devenus les deux héros de la littérature française et dans le monde, avec chacun leur prix Nobel, ces deux hommes magnifiques comme ça, deux géants qui mesurent 1m95. Et moi, j'ai toujours une impression que c'était comme tu devais choisir entre les deux. Tu vois, t'étais Beatles ou Rolling Stone, et t'étais Modiano ou Le Clézio. Et moi, j'ai toujours été Modiano, et je connais pas très bien Le Clézio. Et je trouve que le livre est d'un aspect assez difficile. Comme si pour le comprendre bien, il fallait avoir je pense, lu l'œuvre, que c'est vraiment une pierre dans une œuvre, et que
c'est plutôt le prolongement de ce qu'il a écrit auparavant.
Le prolongement de quelque chose que moi, je connais assez, assez mal.
Une synthèse.
Et enfin, c'est plus dur, plus violent, plus méchant et plus engagé que les 10 derniers romans de Le Clézio.
Moi, j'avais beaucoup aimé celui qui se passait à Nice, qui s'appelait Révolution, je crois, que j'avais trouvé très beau. Là, je trouve que c'est un livre d'aspect un peu difficile au début, et pour une raison d'ailleurs qu'il explique. Parce qu'il dit qu'il peut retrouver les noms, qu'il peut dessiner les visages, mais qu'il ne peut pas retrouver la chaleur de la vie. Et finalement, c'est un livre qui ressemble beaucoup au travail que fait Modianus, c'est-à-dire d'archéologie du souvenir, mais d'un homme qui n'a pas de souvenir, puisque lui, il n'a jamais vécu à l'île Maurice. Donc, c'est une sorte...
Oui, il a plein de traces.
Mais bien sûr, mais c'est des traces qui ne sont pas
les
siennes.
Des traces écrites.
Et encore, dans un pays...
C'était la maison des Leclésios à Maurice.
Mais lui, il va avoir le registre des esclaves, comme Modiano va avoir les vieux annuaires.
Bien sûr, mais sauf qu'il s'assied sur la plage où étaient les esclaves, et il n'y a plus aucune trace. Donc, c'est un livre, je trouve, assez aride, dans lequel, vraiment, il cherche de la vie dans un pays qui est totalement transformé. Et qui finit par trouver. Donc c'est un livre qui se mérite, moi je trouve. Au début, c'est assez difficile, et tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a des espèces d'ouvertures et des scènes d'une beauté folle, avec des personnages incroyables. Et Frédéric le disait, le dodo, cet homme qui a le visage rongé par la maladie, qui parle toujours au présent, comme si la temporalité était complètement abolie, et comme si toute sa vie était une seule journée.
Et qui est quand même l'autre narrateur de ce livre.
Qui est l'autre narrateur, et je trouve que ce narrateur est vraiment sublime, où la manière qu'il a de faire la manche, et remercier les gens en disant « vous m'obligez », et puis la manière qu'il a de venir en France et de devenir une espèce de prince, des clochards et des migrants, l'homme lézard dans une fête foraine, enfin, ça devient complètement fou. Et il y a des passages d'une beauté...
Un peu rimbaldien, d'ailleurs.
Vraiment stupéfiante.
Félinien, d'ailleurs.
Jean-Louis.
Ah ben oui, en effet, le Clézio est...
Toi, tu regrettes, toi, l'oiseau, le dodo, le vrai...
Ah ben oui,
il paraît que c'était très bon à manger.
Mais même, pardon,
c'est
très nourrissant.
Il paraît que c'est
très nourrissant. Facile à attraper, puisqu'il n'arrive pas à décoller, donc... Enfin, c'est comme ça qu'on l'a eu. J'ai beaucoup aimé ce Le Clézio, qui était effectivement au meilleur de sa forme. Ça m'a fait penser à François Le Champy.
À qui?
Vous vous souvenez?
François Le Champy. Ça ne nous rajeunit pas, ça.
Oui, oui. Vous vous souvenez, dans le roman de Georges Sand, en particulier le début, il y a un personnage qui est un type très civilisé, mais qui est bourré de remords, de regrets, parce que il aurait voulu, dit-il, être un homme primitif. Il aurait voulu être paysan, ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, parce que Dieu lui aurait donné les bons instincts. Et parce que la civilisation est la faute de tout, quoi. Au fond, c'est assez leclésien, ce qu'écrivait Georges Sand là, dans les années au XIXe siècle. C'est à ça que ça me fait penser. Bon, ça, je dirais même que Le Clézio est au meilleur de sa forme, mais par des voies finalement pratiquement surannées, voire démodées. Qu'est-ce qui est à la mode, au fond, aujourd'hui? C'est la mode est au débat, la mode est à l'invective, la mode est à la communication, la mode est à la parole, en bref.
Un petit prêche bref, du père
Le Clézio. Du père Le Clézio. La mode est au bavardage. Et dodo...
Ça, on en sait quelque chose ici. Oui.
Ah oui, oui, on est là, voilà, on commente. Et qu'est-ce qu'on commente? On commence les silences de dodo. Je parle du personnage. Ce personnage, il parle en effet au présent de l'indicatif comme s'il était contemporain de l'éternité. Et que l'histoire n'agissait pas sur lui. L'histoire n'agit que sur des petits contingents comme nous, mais pas sur des personnages fabuleux comme Dodo. Et donc, Dodo, c'est le silence. D'ailleurs, il a, à un moment donné, il y a ce mot, il y a toujours trop de mots dans le monde. Vous voyez ? Je crois que Le Clézio fait aussi en même temps un procès au langage, enfin au langage qui nous anime, nous. Quoi. C'est assez paradoxal parce qu'il est, je dirais, délicieusement démodé, mais au fond... Je dis pas ça pour toi, Frédéric, mais au fond, il n'y a rien de plus désobligeant qu'un écrivain à la mode, hein, franchement.
Ça se passait bien jusque-là.
Ah, quoi?
Non, mais ça se passait bien
jusque-là. C'était bizarre. Et une ambiance bizarre.
J'étais sympathique.
Non, je te répondrai que, je suis pas d'accord sur le point où tu dis que c'est démodé, parce que je pense au contraire, tu vois, le président de la République a dit qu'il y en avait marre des cyniques. Je trouve que c'est un livre très premier degré, mais au bon sens du terme, et qui est plutôt dans l'air du temps, à mon avis.
Alma chez Gallimard, le nouveau livre de Le Clézio, très attendu par Jean-Louis, déjà en tête des meilleures ventes, le cinquième millénium, la fille qui rendait coup pour coup. du suédois David Lagercrantz. Il a repris, je vous le rappelle, chez Actes Sud, traduite par Hegel Roel Rousson, la saga culte créée en 2005 par son compatriote Stieg Larsson, qui est mort d'une crise cardiaque, tout le monde le sait, à 50 ans, avant que ne paraissent les trois premiers volumes. Et là, dans ce cinquième, 420 pages, Jean-Louis, Lisbeth Salander,
c'est lourd,
toujours aussi percée et tatouée, purge une peine de prison courte hein, pour mise en danger de la vie d'autrui. Prison où Lisbeth prend la défense d'une musulmane originaire du Bangladesh que les autres détenus martyrisent. Et pendant ce temps, à l'extérieur, son tuteur et mentor, suis-moi bien Jean-Louis parce que c'est pas évident, Holger Palmgren, qui connaît le secret et surtout le traumatisme de Lisbeth, est sauvagement assassiné. mais le Jenada suédois, qui est Mikael Blankvist, mène l'enquête. Elle va le mener sur la piste de savants fous qui menaient des expérimentations sur les jumeaux dans un institut qui avait été créé pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment un peu nauséabond, dévolu à la biologie des races et à la génétique humaine. Bref, c'est Millennium version eugénisme et c'est signé donc cette fois David Lagercrantz. Jean-Louis, prends vite des notes de,
de
mon résumé.
Oui, je prends des notes, t'es content, parce que c'est...
Il note le résumé.
Oui, tout à l'heure, Frédéric évoquait Jenada qui consultait un peu trop souvent Wikipédia. Donc j'ai vu que cette affaire avait démarré par une trilogie.
Non, mais je viens de le raconter, ça. Je viens de le raconter, Jean-Louis.
Non, mais attends, ce n'est pas bien, ça. Ce qui est écrit dans Wikipédia, parce que moi, je l'ai consulté.
Oui.
Je cite, une trilogie qui se compose de trois romans. C'est écrit en toutes lettres. C'est écrit en toutes lettres. Donc on avait quand même un bon
début.
Je
sentais que tu parlerais pas de ce livre.
On avait un bon début
qui est même
difficilement perfectible. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus qu'une trilogie se composant de trois romans ? Franchement, je ne vois pas ce qu'on peut ajouter, quoi. Mais quand même...
Là, on ajoute deux volumes.
Oui, voilà. Alors, moi, je dirais, ce n'est pas tellement le côté volume. On ajoute peut-être une petite touche de couleur, une petite touche de gaieté, mais de gaieté triste, de fausse gaieté. C'est un petit peu, ce que j'ai ressenti, c'est un petit peu comme cette mode qu'il y a eu à un moment donné de coloriser les films qu'on avait vus 3000 fois, en noir et blanc, de les coloriser.
C'est passé ça à peu près, hein, aujourd'hui.
C'est un petit peu ça, moi je trouve. C'est-à-dire, bon, tu vois, le pullover aubergine de Bernard Blier. Tu vois la vache de Fernandel.
Je vois pas le rapport avec ce livre.
La vache de Fernandel qui est repeinte en marronnasse.
Oui, mais je vois pas le rapport avec ce livre, toujours pas.
Ben, le rapport, il est exactement ce que je t'indique là. C'est-à-dire, cet homme-là, là, comment il s'appelle déjà?
Lagercrantz. David Lagercrantz.
Oui. Là aussi, j'ai consulté Wikipédia et j'ai vu qu'il était biographe de footballeur.
Oui, il a fait une. Il en a fait une sur Ibrahimovic.
Oui. Il s'est dit, comment je peux améliorer le truc? Parce que, comment faire?
Bon, je crois que c'est clair, je ne vais rien obtenir. Je ne vais rien obtenir de toi.
Ce qu'il veut dire, c'est que c'est une tentative pour moderniser le thriller.
Oui, mais ça, j'ai compris. Mais enfin,
voilà. Plus gothique, plus gore, plus tatoué, plus, avec toute la tiraille de la violence
j'espère que tu vas revenir, Frédéric.
Mais en fait, ça tient surtout sur ce personnage de Lisbeth Salander, qui est quand même culte, parce que la fille, elle est hackeuse.
Depuis le cinéma,
on
a fait quasiment une légende.
La fille, elle est.
C'est
une surdouée, elle est ultra bonne en karaté, en tout. Elle est très, très intelligente.
Elle est très tendance, elle. C'est pas du tout un personnage pour jouer.
Ah oui, mais non, mais c'est un personnage très fort. Le problème, c'est que. Donc, il faut raconter l'histoire. La trilogie de trois romans, là, l'auteur est mort. Il est mort à l'âge de 50 ans. Il s'appelait Stieg Larsson, et depuis, ils veulent continuer la saga en gardant cette fille, mais écrite par quelqu'un d'autre.
C'est comme Astérix.
C'est un vieux truc.
T'as vu,
Astérix, San Antonio, ce genre de personnage qu'on veut continuer après la mort de l'auteur. Et c'est ça qui, à mon avis, ne marche pas, parce que c'est pas au niveau. Parce que
le plus grave, c'est pas que les auteurs soient mortels, c'est qu'ils soient menacés par la perpétuité.
Par des personnages qu'on veut ressusciter.
Jolie formule, Olivia.
Écoute, moi j'ai eu une impression.
Tu aimes bien Lisbeth, toi ?
J'adore Lisbeth. J'ai adoré la trilogie. Ouais, j'avais pas lu le numéro 4. Mais là, j'ai une impression de lire le livre en suédois. En tous les cas, ça ne peut pas être du français.
Ouais.
Alors, je ne sais pas où est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le mec qui écrit comme un pied ou est-ce que c'est le traducteur
c'est
dont il faut taire le nom par charité chrétienne qui l'a fait très vite? Parce que maintenant, ils sont complètement parano. Donc, on enferme un traducteur,
avec
un ordinateur sans internet
pour
qu'il n'y ait aucun.
Avec des vigiles.
Donc, sans doute, il a travaillé trop vite parce que pour dire, par exemple, il me drague, il y a écrit il me convoite. Non, c'est des trucs qui ne marchent pas. Et après,
c'est joli.
Oui, c'est joli.
C'est joli.
Il y a des choses qui sont d'une bêtise mais ahurissante. Par exemple, Faria était condamnée pour le meurtre de son grand frère qu'elle avait défenestré. Ok. La phrase d'après, mais son caractère était exempt de toute forme de violence. Excusez-moi. Mais alors là, soit c'est le mec qui est débile, soit c'est moi. Mais il y a un problème.
Oui.
Il y a une scène démente. Il y a une bataille, donc elles sont en prison, et Lisbeth a une sorte d'ennemi, qui est une dame qui s'appelle Benito, vous voyez comme c'est malin, parce que comme ça tout de suite on voit son caractère, et Lisbeth va lui mettre une raclée.
Mais ça on est content qu'elle lui foute une raclée.
Oui, mais c'est pas ça qui est
parce
drôle.
Parce qu'elle est odieuse.
Donc la fille elle est donnée pour morte, elle bouge plus. Il y a le directeur de la prison qui arrive et qui fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon, alors déjà, on se dit « Il est idiot. »
On est en Suède.
Possible.
On est en Suède.
Et après, il y a cette phrase. Donc, la fille, elle baigne dans son sang. Lisbeth, elle est encore plus enragée que d'habitude. Et il est dit ça. Le directeur, donc, sentit instinctivement qu'il fallait agir. Non, mais écoutez, ce n'est pas possible. C'est bourré de remplissage. Les polars, on voit qu'ils sont mauvais quand vous avez tout ce que mangent les gens au petit déjeuner. Et alors là, vous avez tout. En plus, le gars, il est fou. Sur son plateau, il y a un espresso et un cappuccino. Tu te dis pourquoi les deux. Des tartines de fromage et de pâté de foie.
Mais t'es là-haut.
Non, mais c'est du remplissage. C'est le syndrome. Il appuya sur la poignée de la porte. La porte s'ouvrit. Oui, magique. Il referma la porte et la porte se referma. Non, c'est pas possible.
Et il faut
ça, c'est quand t'es payé à la
pardon, et j'ajouterais aussi, t'as tout à fait raison, mais qu'en plus l'intrigue est bien pompée sur les derniers blockbusters, parce que le début c'est Orange is the New Black,
c'est vrai.
Et après c'est une histoire d'expérience scientifique sur des cobayes, comme dans un film sur deux américain, quoi, Jason Bourne, Kick-Ass, enfin tout ça.
Non, c'est vraiment pas bien.
Je me suis senti à peu près à nouveau Casanova. C'est-à-dire que je me suis demandé s'il fallait mieux être dans une geôle avec le livre de Véronique Olmy ou avec le cinquième tome de Millennium. C'est une vraie question, très, très, très difficile à trancher. Je me suis revu il y a 2 ans en train de parler de Millennium 4. Je me suis dit que dans 2 ans, je parlerai de Millennium 6.
Non, parce qu'il a dit.
Dans 4, de Millennium 8.
La guerre Grant a déclaré qu'il arrêtait après. Hein.
Non, Stieg Larsson avait prévu.
Bonhomme. C'est pas bon signe, si le mec qui doit être très bien payé, il arrête.
Tu sais que Stieg Larsson avait prévu 10 volumes. Qu'il était en train d'écrire, non pas le volume 4, mais le volume 5, en l'occurrence, parce qu'il avait fait des plans et que celui-ci, le 5, le faisait plus marrer à écrire. Il en a écrit les 2/3. Vous savez que sa veuve avait, qui n'était pas mariée, malheureusement, il faut épouser parce que sinon c'est un vrai problème. Elle a rien touché. Non,
rien.
En fait, si elle a touché, c'est que le père et le frère lui ont dit « Ma cocotte, tu vas toucher du blé. Nous, on garde les droits. Tu vas toucher du blé à une condition, c'est que ce volume 5, les 2/3 qu'il avait écrit, tu le fais disparaître. » Disparaître. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le type, là, David...
Lagercrantz.
Mais quel nom d'écrivain? On demanderait à un logiciel un nom d'écrivain à un robot, on lui dirait, trouve un nom d'écrivain qui marche à peu près un peu partout dans le monde. Mais David Lagercrantz, tout de suite, l'imagine, mais c'est génial.
T'as vu comment tu parles du biographe...
Stieg Larsson, ça faisait vraiment...
D'Ibrahimovic.
Là, on est passé à la globalisation avec... Et en fait, la série est passée dans la globalisation. C'est ça où elle n'est plus intéressant. Les 3 premiers tomes, c'était sur la Suède, sur les rapports entre la Suède et l'Europe, l'Union européenne. C'était un journaliste économique qui racontait les secrets des montages financiers entre l'Union européenne et la Suède. Mais là, il n'y a plus rien, on s'en fout des histoires.
Allez, Millennium, la fille qui rendait coup pour coup, bah vous aussi d'ailleurs, et c'est David Lagercrantz chez Actes Sud. Une poignée de minutes pour évoquer un roman, moi que j'aime beaucoup, qui est 3 jours chez ma tante, qui est un peu un polar. d'Yves Ravet, c'est chez Minuit. Le mec, il arrive du Liberia, où il a été exilé pendant 20 ans. Il s'appelle Marcello Martini, c'est le narrateur. Il débarque à Lyon pour apprendre que sa tante richissime met fin, c'est Vicky Novak, met fin à ses mensualités, celles qu'elle lui versait, et surtout qu'elle le déshérite. Le neveu a 3 jours pour tenter de la faire revenir sur sa décision. Mais comme c'est lui qui raconte, évidemment, on a du mal à savoir exactement où est la vérité. C'est un peu comme chez Simenon, je trouve, c'est à la fois très simple en apparence, beaucoup plus complexe, d'autant qu'il faut savoir que la tante a été déportée, qu'elle a été spoliée de ses biens. Quant à lui, Marcello, je crois que j'ai pas vu de mec plus antipathique dans cette rentrée littéraire. Il est lâche, il est obséquieux, il est cupide. Oh ouais. Là encore, il y a un épilogue que je trouve à la fois très drôle, très énigmatique, mais qu'on ne va pas raconter. Brièvement, vous me dites si vous l'avez aimé ou pas, Olivia ?
Ah bah oui, c'est une sorte de mécanique parfaite sur la manipulation. Qui manipule qui ? Est-ce que c'est Marcello qui manipule sa tante ou le contraire ? Et surtout, c'est une grande manipulation du lecteur, parce que ce personnage, qui va s'avérer assez antipathique, je trouve que c'est un livre qui produit sur le lecteur le sentiment inverse que tu devrais avoir. Parce qu'en fait, tu le trouves quand même très sympathique.
Au début, oui. Bah, attends, mais, il dit qu'il s'occupe des enfants déshérités.
Mais même à la fin, c'est très très bizarre.
Au Liberia, qu'il...
Alors après, on apprend vraiment des trucs épouvantables, mais je trouve que même quand on apprend des trucs épouvantables, on est tellement manipulé nous-mêmes qu'on n'arrive pas à se défaire de la sympathie qu'on a pour lui. Alors que, elle, on devrait avoir de la sympathie pour elle, on n'en a pas. Et c'est vraiment très très bien fait. Après, là où c'est pas tout à fait Simenon, c'est qu'il manque un tout petit peu peut-être quand même de chair ou d'émotion. Ah. Parce que finalement, t'as quand même pas beaucoup de...
Ouais.
Je trouve ça manque un peu de chair, mais c'est une sorte de mécanique géniale.
C'est les éditions de Minuit en même temps.
Il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup de chair chez Simenon.
Il ne faut pas
exagérer.
Si.
Bon, écoutez, c'est pas la peine de prendre du temps, Arnaud.
Il y a un côté grinçant, j'ai trouvé, comme dans les comédies italiennes des années 70, quand il y a des films de Marco Ferreri ou des.
L'argent de la vieille.
Ouais, l'argent de la vieille, quoi, voilà. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a que l'argent. Et c'est très rare, finalement, que l'argent soit évoqué d'une manière aussi brutale, aussi violente et drôle. Il y a quand même une drôlerie dans la mécanique. Alors, c'est vrai qu'on est surpris parce que on s'attend à un peu plus, j'allais dire, d'écriture. J'ai vu qu'il avait... Moi, c'est la première fois que je lisais Yves Ravet, qu'il avait fait des pièces de théâtre. Du coup, c'est surtout des dialogues, quoi. On le voit, on pourrait le jouer sur scène, là, immédiatement.
Oui. Et ce qui fait l'écrivain, c'est quand même l'écriture, normalement.
Entre roman et théâtre qui me gêne un tout petit peu.
Moi, ce qui m'a le plus frappé, moi, c'est l'économie de mots. Enfin, c'est plat, mais ça m'a fait penser à un mot d'Anatole France sur Zola qui disait « J'admire qu'il soit si lourd tout en étant si plat ». Et là, c'est d'une platitude, mais très très plat, c'est-à-dire plus plat que ça, ça doit être concave, peut-être. Et là, on dirait une disserte de concours sur le thème « Composer un roman entier avec un répertoire de 18 mots », tu vois, à peu près, c'est peut-être moi ça. Ah si, c'est un encouragement à l'illettrisme, ce...
Arrête, oh non, Non, il y a comme dit... Frédéric, il y a une tradition Minuit.
Elle remonte
un peu au nouveau roman.
Elle est montée en épingle.
Machiavélique. C'est un livre machiavélique. Moi, je connaissais pas. Franchement, merci. Merci au Masque et la Plume de m'avoir fait découvrir un auteur parce que chaque petit chapitre approfondit les personnages tout en rendant l'histoire plus épouvantable, en fait. Chaque fois, tu tombes plus bas qu'au chapitre d'avant. C'est un livre sur le lucre. C'est un livre sur une époque qui est complètement matérialiste. D'ailleurs, le suspense du livre, c'est est-ce que la tante va faire le chèque ou pas?
Il y a une scène du chèque, et la scène du chèque est déprimante.
Moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très bien fait, assez surprenant. En revanche, juste un truc, c'est que, bon, 3 jours chez ma tante, on voit qu'il visait
On a déjà eu 3 jours chez ma mère.
Voilà. Tu crois que c'était pour le Villargans?
Non, tu pourrais lancer une collection. 3 jours chez
La prochaine fois, 3 jours, chez ma belle-sœur et tout. Oui.
3 jours chez Harvey Weinstein, enfin, tu vois, etc.
Excellent.
Ah, très chic, très chic.
Celui-là, je te laisse. C'est pas
3 jours chez ma tante que, personnellement, je vous conseille, c'est Yves Ravet.
Par Frédéric Babédet, 3 jours chez le mec, là. Je sais même plus son
nom. Le mec, c'est Weinstein.
Oui, Weinstein, voilà.
Hein? Chez Minuit, donc Yves Ravet.
Je le note.
Allez, Un conseil pour terminer cette émission. On va commencer avec Frédéric.
Alors moi j'ai beaucoup aimé, à l'époque où il est sorti, « Les méduses ont-elles sommeil ?», premier roman de Louisiane C. Dore, qui donc sort en folio. Elle avait 23 ans à l'époque, elle doit en avoir 24 aujourd'hui, logiquement. C'est le témoignage d'une donc jeune fille qui est tombée dans la drogue, qui est le MDMA, pour être précis. Et elle a un ton très innocent pour raconter une histoire qui est très dure, avec des mots très simples. Là, pour le coup, peut-être qu'il n'y en a pas 18, mais un peu plus, mais pas tant que ça. Et voilà, pour les jeunes qui nous écoutent, et aussi pour ceux qui sont parents d'adolescents qui pourraient se trouver dans cette situation, c'est vraiment un livre important.
Tu rappelles le titre ?
Les méduses ont-elles sommeil ? De Louisiane C. Dore, et c'est chez Folio.
Le conseil de Jean-Louis.
Oui, alors c'est un livre,
oui,
sur l'histoire d'un livre qui ne s'est jamais écrit. Qui devait être écrit par un fou de champignons, qui était un avocat de droit international, qui a disparu sans réaliser son rêve. Son rêve, c'était donc d'écrire un livre sur les champignons, sur le mystère des champignons. Et avec le succès qu'il n'aurait pas manqué d'avoir, c'est la saison, et en plus elle est excellente. Et avec l'argent de ce livre, il rêvait de s'acheter une forêt, c'était un fou de forêt.
Bon, tu pourrais nous conseiller
donc
un livre ?
Oui, alors, mais non, le livre a quand même eu lieu, parce qu'il a tenu au courant de ça un de ses amis, et il se trouve que cet ami est un grand écrivain, c'est Peterhanke.
Oh, ça doit être drôle, le livre.
Non, oui, bah, il est très bien. Il est excellent.
Ouais,
ça s'appelle « Essai sur le fou de champignons ».
J'ai commencé à lire, c'est assez marrant, curieusement.
Oui, c'est très drôle.
Ouais. Oui, non, curieusement, Peterhanke est assez marrant.
C'est un des meilleurs Hanke que j'ai lu, il n'est pas long. Donc
Peterhanke, tu rappelles le titre ?
Essai sur le fou de champignons, avec en sous-titre « Une histoire en soi ». Chez Gallimard, pardon, collection...
Voilà, ça va, bon, on va pas donner l'ISBN. Mon conseil, ça s'appelle tout simplement « Cher lecteur ». C'est signé de Georges Picard et c'est chez José Corti. Oui. Et j'adore la première phrase de ce livre. « Je ne suis pas un écrivain médiatique ». Fils d'ouvrier, ancien militant maoïste, Picard ouvre sa bibliothèque. Alors là, c'est très étrange, où Charles Dubos voisine avec Philippe Delerme.
Ah oui.
Pascal avec San Antonio et Georges Perros avec un homme qu'on aimait beaucoup, n'est-ce pas Frédéric ? C'était André Blanchard, qui était son correspondant.
C'est pas le contraire d'ailleurs.
Absolument. Alors en plus, bien sûr, Picard vitupère les best-sellers à la noix, les marmelades de mots et de platitudes mises en pot par de pitoyables éditeurs, et surtout, tenez-vous bien, la sous-culture majoritaire venimeusement proposée par le capitalisme libéral et marchand.
Voilà, tout est dit.
Non, j'aime beaucoup ce livre, cher lecteur, et c'est Georges Picard, le conseil d'Olivia.
Un récit paru au Seuil qui s'appelle « Les passeurs de livres » de Delphine Minouilly. C'est une histoire démente. Elle raconte comment, dans une banlieue de Damas, qui est assiégée, qui subit les bombardements, le napalm, tout, je crois que la population était passée de 150 000 personnes à 12 000 personnes. Et comment, dans cette ville où il n'y a plus rien, où les gens meurent de faim, il y a une bande de jeunes gens qui vont aller ramasser les livres dans les décombres et faire une bibliothèque clandestine souterraine. Et les gens découvrent des livres de développement personnel américain, genre tous les trucs pour passer une très bonne journée. Et ça devient une espèce de divan pour eux. Et évidemment, un instrument de résistance. C'est un livre magnifique.
Le titre, Olivia ?
Les passeurs de livres.
Et c'est chez...
Au Seuil. Delphine Minouilly. Elle est correspondante de Figaro à Istanbul.
On termine avec Arnaud.
Il y a un jeune écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Johann Zarca, qui avait écrit un livre sur le bois de Boulogne, s'appelait un roman d'ailleurs, sur le bois de Boulogne la nuit, s'appelait Le Boss de Boulogne. Il écrit dans une espèce de verlan, une langue semi-étrangère, et c'est un des plaisirs qu'on a, c'est-à-dire de découvrir une autre langue qu'on doit un peu décrypter. Moi, je trouve ça... Et là, il écrit un livre qui s'appelle Panama Underground, qui est une espèce de docu-fiction sur Paris aujourd'hui, les lieux chauds de Paris, alors la nuit, mais pas simplement. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des lieux qui sont vrais, et puis d'autres qui sont un peu inventés. Et donc, il nous renvoie à nous notre fantasme bourgeois de l'underground. Qu'est-ce qu'on croit vrai et qu'est-ce qu'on croit faux ? Tout ça écrit d'une manière hyper drôle, hyper intelligente, dans cette donc langue qu'on découvre comme ça, là aussi, en bourgeois. En disant, c'est un peu comme on dit des vieux cons qui écoutent un disque de rap, et c'est vraiment très fort. C'est aux éditions de la Goutte d'Or, des jeunes éditions.
Et on relit, c'est toujours bien, les livres d'Hervé Prudhon qui nous a quittés il y a 2 semaines, n'est-ce pas Arnaud ? Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et de la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Frédéric Becbédé, Jean-Louis Hézine, Olivia de Lamberterie et Arnaud Vivian pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir, au Sacha Guitry à la technique, et je les remercie, Bruno Mourland, Pierre-Henri et Stéphane Touvenin. La réalisation était signée David de Jacuboviez. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, eh bien, c'est le 2 novembre, le 2 novembre à 20h au studio Sacha Guitry de la maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.